Vous écoutez, on lit pour vous.
Un mot à la fois, José Piranha, humoriste et motivateur, bègue. Un texte de Nathalie Prézot, paru le 5 novembre 2024 dans L'Express. La plus récente aventure de l'humoriste motivateur José Piranha était la première mondiale du long-métrage documentaire consacré au parcours du Torontois d'origine libanaise pour faire la paix avec sa réalité de bègue. Il est aussi polyglotte, ce qui fait qu'il bégaye en plusieurs langues. Le hasard fait bien les choses, puisque le documentaire bilingue a été présenté au festival Real World la même semaine que la Journée internationale de sensibilisation au bégaiement, déclarée le 22 octobre depuis 1998. Avec « Du silence à la scène »,« Words left unspoken », on découvre la démarche de José Piranha sous le regard à la fois tendre et ferme de la réalisatrice Josiane Blanc. Depuis le début de sa jeune carrière, celle-ci a démontré un œil aiguisé pour saisir les enjeux d'une situation. Sans faire de nous des voyeurs, elle nous oblige en douceur à vivre notre inconfort devant la vulnérabilité des protagonistes. À témoin, son court-métrage compte d'une grossophobie ordinaire qu'on peut visionner sur le site de l'ONF. Pour les deux films, mon objectif était d'exposer la réalité et les défis de mes protagonistes au quotidien, en plongeant dans leur monde de manière immersive, confie la réalisatrice à l'Express. Je crois beaucoup que le film documentaire peut contribuer à ce que les gens aient plus d'empathie. On retrace facilement sur Internet les jalons de la montée de José Piranha depuis 2017. Le fait d'avoir passé plus de 20 ans à éviter de parler m'a motivé à vouloir vivre le reste de ma vie en faisant l'exact opposé, résume-t-il. Et la seule façon pour lui d'y arriver était de faire ce qu'il craignait le plus, c'est-à-dire parler, humour aidant. L'humoriste prévient d'ailleurs son public au début de chaque prestation. J'espère que vous aimez le respiration, suspense. Le bégaiement au Canada et ailleurs. On estime qu'il y a 410 000 bègues au Canada, soit 1% de la population. C'est une statistique qui tient la barre un peu partout dans le monde. Le bégaiement est de 3 à 4 fois plus fréquent chez les hommes. En 1991, des groupes d'entraide à travers le pays ont décidé de former l'unilingue Canadian Stuttering Association, CSA, pour qui José Piranha a d'ailleurs été conférencier. Le Québec a son propre organisme francophone, l'Association Bégaiement Communication, fondée en 1985. La démarche du motivateur s'inscrit dans un mouvement grandissant pour changer le point de vue de la société envers les bègues dans le but de générer une plus grande inclusion. En 2022, STAMA, l'Organisation nationale du Royaume-Uni pour les personnes qui bégaient et leurs alliés, a même créé un drapeau de la fierté du bégaiement. La CSA fait maintenant la promotion des hashtags hashtag stop the stigma et hashtag include stuttering voices. Elle vient de lancer une campagne visuelle fort originale qu'on peut voir sur sa page Instagram, permettant aux gens de mieux comprendre les formes variées du bégaiement. La campagne de sensibilisation affirme qu'elle a créé 410 000 noms de domaines menant tous au site de l'association. Chaque URL illustre les diverses façons dont un bègue pourrait prononcer le mot « stutter ». Une montée inattendue. L'histoire de José Piranha en est une de persévérance sous la lumière de l'introspection. Quel est le moment charnière qui a déclenché un changement en lui? Il explique que cette question, qu'on lui pose souvent, repose sur une idée romantique que tout ce dont nous avons besoin pour nous transformer, c'est un déclic. José a éventuellement compris que la façon d'être en paix avec son bégaiement sévère serait de confronter sa peur au quotidien, un mot à la fois. Pour moi, il s'agissait de millions de moments de courage. Par exemple, il s'est donné le défi, chaque semaine, de se rendre sur une place publique pour parler à une centaine d'inconnus. Quand il étudiait à l'Université McGill, en commerce et psychologie, il s'est imposé de joindre le club de débat. Puis, il a joint un club de Toastmasters International afin de vaincre sa peur de parler en public tout en poursuivant des exercices de respiration ciblés. Il s'est ensuite lancé dans les Speaker Slams et remportait en 2017 le prix du meilleur orateur à la compétition du Grand Slam of Inspirational Speaking, l'aboutissement de 8 Speaker Slams où s'affrontaient les meilleurs orateurs de l'année. On suivit plusieurs TEDx Talks et de nombreux contrats corporatifs pour motiver les foules. Chemin faisant, sa famille, atterrée, réinstallée au Liban, découvre en même temps que le public l'ampleur de ses batailles intérieures et de toute la douleur qui vient avec le bégaiement. Fort de tous ses succès, José sentait qu'il avait désormais le contrôle sur le chaos que son bégaiement avait créé dans sa vie. Puis, la pandémie est arrivée. La métaphore du bégaiement. Au début 2020, la COVID a pulvérisé l'illusion de la croissance continue. Ses angoisses sont revenues aussi rapidement que ses contrats d'orateur public s'envolaient. Le motivateur a alors constaté que la peur ne disparaît jamais et qu'elle ferait toujours partie de sa vie. Il a aussi réalisé que c'était là que résidaient les leçons de vie s'appliquant à tous. Chaque jour requiert un petit moment de bravoure, même quand je le souhaite le moins. J'ai appris que je devais vaincre mes peurs chaque jour. Elles ne s'arrêtent pas, et moi non plus. José s'est depuis donné pour mission de changer la relation des gens avec la peur et l'inconfort. Et il a trouvé les mots pour ce faire en s'appuyant sur la métaphore du bégaiement. Toutes les fois que la peur vous retient d'aller vers quelqu'un, voilà votre bégaiement intérieur. Si mon bégaiement est visible, le vôtre ne l'est pas. Vous voulez prendre la parole dans un groupe, mais vous restez silencieux? Vous avez une idée géniale, mais que vous bloquez sur l'exécution? Vous trouvez quelqu'un d'intéressant, mais que vous ne lui dites même pas bonjour? Voilà votre bégaiement. Chaque fois que nous succombons à notre bégaiement, nous nous privons d'innombrables possibilités. La peur et l'action peuvent coexister. José Piranha, s'adressant à la foule, malgré un bégaiement sévère, est la preuve qu'en acceptant nos différences et en affrontant nos peurs au quotidien, en microdose, on peut commencer à vivre pleinement. Et si on prenait le temps? Il y a tout un monde intérieur et beaucoup de vulnérabilité entre deux syllabes. C'est ce qui rend les échanges inconfortables pour les deux interlocuteurs. La personne qui bégaye ressent l'impatience des autres. Mais qu'avons-nous à être si pressés? Sur son site, la CSA affirme que la personne qui bégaye sait que vous l'attendez. Elle aura plus de fluidité dans son débit. La réelle empathie réside dans l'espace qu'on se laisse pour écouter ou être entendu, surtout si ça nous fait un peu peur nous rappellerait José Piranien. C'était Un mot à la fois, José Piranien, humoriste et motivateur, Beck, un texte de Nathalie Prézot, paru le 5 novembre 2024 dans L'Express.
Le cycle du sang, un texte de Gabriel Giasson Dulude, paru le 21 octobre 2024 dans la revue Liberté. N'est-ce pas connaître, n'est-ce pas savoir, que d'écouter le mouvement des variations du vivant? Gabriel Giasson Dulude se propose de naviguer entre le sensible, les croyances, les pouvoirs, pour entrer dans ce qu'on ne voit pas, ne nomme pas, mais qui nous appelle. J'aurai de grands projets dans ma vie. Je serai guidée par des visages, je serai portée par leurs voix, leurs odeurs. Je suivrai des petits instants vibrants en eux que je ne comprendrai pas. Toute ma vie sera orientée vers ces visages. De quelques-uns, je voudrais tout prendre, les faire miens, ne jamais les oublier. Eux seront des étoiles contre lesquelles je chercherai aussi à briller. J'aurai l'impression de les entendre, de reconnaître la vie de ces astres depuis une flamme en moi. Quand j'aurai quitté l'utérus de cette étoile qui est ma mère, je n'aurai plus d'alliance de corps pour me rendre au monde que ces autres visages. À 12 ans, je ressentirai pour la première fois la puissance d'avoir un corps capable de saigner pendant des jours sans mourir. On m'accueillera parmi les femmes. On se plaindra ensemble de cette condition. Les écoulements menstruels deviendront familiers. J'apprendrai la forme et la texture du flot, l'empreinte dans les reins et la fatigue des jambes. Du sang, je connaîtrai la couleur rouge, rose, brune, jour 1, jour 2, jour 3, le rythme, les taches, l'odeur du plastique, celle du coton, le risque d'oublier, les pilules qu'il faut prendre pour traverser les journées. Je connaîtrai tout. Je serai rythmée par le sang, comme par la nuit, comme par l'eau que l'on boit pour ne pas mourir. J'arroserai ce qui pousse. Je rêverai un jour de donner naissance, pour tout vivre. Aux abords de la quarantaine, je serai en paix avec la naissance non advenue, les possibilités qui rétrécissent, l'autre vie qui ne sera pas. Je me nourrirai de feu. J'aurai encore beaucoup à vivre. Puis, il adviendra un nouveau rythme dans le cycle, jour 9, jour 10, jour 13, une inquiétude. Pourquoi cette soudaine perte de sang? Pourquoi cette pression contre la vessie, ces gonflements, ces ballonnements? Pourquoi cette désarticulation du corps et le temps qui semble de plus en plus limité pour tout faire, tout être, tout vivre? J'aurai perdu mon médecin de famille depuis son départ à la retraite, alors j'apprendrai les nouveaux fonctionnements du système de santé. Je ferai monter le taux d'engorgement que certains et certaines brandissent pour justifier les cliniques privées. J'irai à l'urgence pour qu'on me donne un rendez-vous médical. Le lendemain, grâce à une infirmière qui complimentera mes cheveux, je bénéficierai d'un passe-droit. Au téléphone, elle insistera sur l'urgence de ma situation. On m'invitera aussitôt à monter à l'étage pour une échographie. Une sonde fera des cercles sur mon ventre, une autre entrera dans mon vagin. J'y laisserai un peu de sang. Un mois plus tard, la chose aura un nom et on me l'expliquera rapidement, comme une affaire sans importance qu'on raconte à cette personne qu'il faut rassurer parce qu'elle s'en fait trop. Une masse, une tumeur, probablement bénigne, dans les parois de l'utérus. Fibrome utérin. Très fréquent, une femme sur trois. Sans conséquence. 6 cm de diamètre, une clémentine, ses limites, mais ça ira. On contrôlera les symptômes, un stérilet réduira les saignements. Vous pourrez vivre normalement, diront-elles. 2 jeunes femmes médecins, en qui je voudrais avoir confiance pour ce qu'elles représentent, me le diront. Le stérilet fera probablement disparaître la tumeur. Je lirai sur Internet que le stérilet ne fera rien disparaître du tout. Il contrôlera la quantité de saignements. C'est tout. Aucun rendez-vous de suivi ne me sera donné. Vous pourrez venir nous voir si ça empire. En attendant une amélioration ou une aggravation, je suivrai les conseils d'un peu tout le monde, je dépenserai de l'argent. J'enverrai une photo de moi de plein pied à un magnétiseur, un homme qui aura l'air d'un entrepreneur de l'autre côté de l'océan et qui me dira que son travail serait trop long à expliquer, qu'il vaudrait mieux que j'achète son livre. Je suivrai un régime ayurvédique. La tumeur sera une boule de toxines qu'il faudra nettoyer. Fèves mung, quinoa, patates douces. Je ferai du yoga, de la méditation, sentir son utérus. Être en relation avec la chose, ne pas l'enterrer, respirer dedans. Avoir le courage d'entrer au plus profond de son utérus. L'appeler womb. Pas de sucre, surtout avant 10 heures le matin. Les femmes buvant plus de 2 verres de bière par jour sont plus à risque. Chaque personne que je paierai me dira pouvoir amener le fibrome à disparaître. Leur certitude dans la manière de le dire ne m'incitera pas à la confiance. Je serai poussée pourtant par la curiosité, par le rassemblement de mes forces vers un objectif, en attendant une amélioration ou une aggravation. Viendront les suppositions. Est-ce le deuil de ne pas avoir eu d'enfant? Est-ce la marque d'une rupture amoureuse? Est-ce l'empreinte de la mère, de son utérus meurtri? L'ADN qui est aussi la mémoire des violences faites aux femmes? Le stress? La personne qui pratiquera l'échographie me parlera de la colère des femmes logée dans l'utérus. Les femmes noires ont beaucoup de fibromes, dira-t-elle. Elle-même sera noire. C'est logique, poursuivra-t-elle. Quand on regarde notre histoire, la violence subie, on la retourne contre soi. 8 centimètres, il aura grossi. Je voudrais croire en cette force en moi d'anéantir l'envahisseur. Je continuerai le yoga, le régime. Je fermerai les yeux. Je sentirai. Je serai présente, entièrement. J'aimerais croire à l'invisible, mais je n'aurai aucune certitude de rien. Rien du tout. Jour 16, jour 17, dessaignement hémorragique. Je réapprendrai aussi à faire l'amour. Avec un homme aux yeux si doux que je voudrais m'y ancrer. J'aurai peur du sang, mais j'entrerai dans la douceur de son visage chaque fois comme pour la dernière fois. Je deviendrai ici et là un peu de lui, de son étoile, mais entre nos deux corps resteront présentes les taches de sang dans les draps et ma douleur. Jour 48, jour 49, je vivrai dans la perte des jours calmes. Je me surprendrai à croire que le sang aura maintenant cette capacité d'expulser la vie hors de moi. Caillot de sang après caillot de sang après caillot de sang. Des masses lourdes toutes les 10 minutes. Ton utérus est vieillissant, me dira le médecin à l'urgence. Une nouvelle sonde sur mon ventre. L'homme pèsera plus fort, je le lui signalerai. Il me répondra qu'il est difficile de bien voir. Je ne comprendrai pas le lien entre faire mal et mieux voir. Il me demandera si je suis vierge. Je refuserai la sonde intravaginale à cause de la question et de comment il l'aura posée. Un caillot de sang restera coincé, plus solide. En m'aidant de mes doigts, je tirerai le caillot dur qui contiendra mon stérilet. J'en serai horrifiée, puis fière. Fière de mon corps qui aura éjecté par lui-même un intrus. Mais après viendront de nouvelles chutes, les grandes chutes, et l'anémie, et l'urgence encore, dans un autre hôpital avec une clinique gynécologique. 10 centimètres de diamètre, ces mots-là deviendront ceux qui tranchent. La mesure signifiante pour une intervention. Un pamplemousse à l'intérieur jusqu'au nombril. C'est comme si vous étiez enceinte, dira le médecin à l'urgence. J'aurai un rendez-vous en gynécologie 3 jours plus tard, avec une femme plus jeune que moi se prénommant Valérie. Je trouverai à propos d'elle, dans un article sur Internet, qu'elle incite les femmes à parler aux autres de l'endométriose, puisque la maladie touche 1 femme sur 10. Il faudrait savoir qu'elle existe. Les fibromes, 1 femme sur 3, il faudrait le dire aussi. Je donnerai toute ma confiance à cette personne qui appelle la parole. Quand elle arrivera en coup de vent dans son bureau, anxieuse devant les images de mon corps à l'écran, j'aurai l'impression de rencontrer un visage investi. Je me souviendrai de cette phrase comme de ses premiers mots. « Je vais te mettre en fausse ménopause. » Ça se fera par injection pour arrêter les saignements et l'anémie. Il faudra enlever la masse ou l'utérus. Elle le dira autrement et avec beaucoup de précautions. J'aurai besoin d'entendre cru. Je penserai que mon corps est un arbre avec des nœuds et des branches qui cassent en hiver, puis avec des rayures qui apparaissent au fil des saisons. Je considérerai fermement l'option qu'on me coupe cette branche, qu'on sorte de moi cette part de la lignée maternelle. J'apprendrai qu'il existe des orgasmes du col de l'utérus, des orgasmes cervicaux. Ça me fera pleurer pendant tout un avant-midi. Si une partie du col était conservée, jouirait-il toujours le col? Porterais-je en moi un utérus fantôme? Je penserai au vers de José Yvon au pied de la lettre. « Mon amour, je ne guérirai jamais si tu me fourres dans ma blessure. » Et puis, pas seulement au pied de la lettre. Une femme me racontera son émancipation sexuelle après l'hystérectomie, une relation avec une femme pour la première fois. Une autre me dira qu'elle n'aura jamais regretté. Cette disparition régénérera-t-elle de l'espace pour l'air et la photosynthèse dans un lieu collectif? Cette disparition fera-t-elle apparaître un espace libéré d'une mémoire familiale ou de quelques terres ancestrales? Expulserai-je de moi la lignée de ma mère? Expulserai-je de moi le corps de ma mère? Est-ce qu'un nouveau sol pourra renaître à partir des nœuds, sous les feuilles, au printemps? Redonnerai-je mon utérus à ma mère et, avec le geste, quelque chose de ma propre naissance? Confierai-je à ma mère le berceau des enfants que je ne consentirai pas à lui donner? Est-ce que me retirer l'utérus fera de moi un corps plus libre d'offrir une autre forme de vie? Je me retournerai vers les visages encore, pour tout vivre, de plus proche, comme depuis l'intérieur des corps. Je referai l'amour à l'étoile, aux yeux si doux qu'ils appelleront toute la lumière du monde, une autre fois, une autre dernière fois. C'était « Le cycle du sang », un texte de Gabriel Giasson du Lude, paru le 21 octobre 2024 dans la revue Liberté. Vous écoutez « Le cycle du sang », un texte de Gabriel Giasson du Lude, paru le 21 octobre 2024 dans la revue Liberté.
Voici comment la Station spatiale internationale finira sa vie. Un texte de Hugo Ruère, paru le 22 octobre 2024 dans Québec Science. Devenu trop cher à entretenir et à exploiter, la Station spatiale internationale doit cesser ses activités en 2030. C'est SpaceX qui se chargera de ses derniers instants. Après plus de 20 ans de service, la Station spatiale internationale, ISS, s'apprête à tirer sa révérence. La NASA a dévoilé en juin 2024 à quoi ressemblera la fin de ce laboratoire en orbite, au sein duquel des milliers d'expériences ont été menées. Tout finira donc entre les mains de SpaceX, à qui la NASA a octroyé un contrat de plus de 800 millions de dollars américains. Sa mission, à partir de 2030, pousser vers la Terre cette structure de 110 mètres de long et de 430 000 kg jusqu'à ce qu'elle atteigne l'atmosphère et y brûle en majeure partie. L'idée est d'éviter qu'elle ne descende d'elle-même et se désintègre de façon non contrôlée. La manœuvre complexe sera effectuée par une capsule bâtie sur le modèle des Crew Dragons, qui ravitaille déjà la station, mais avec 46 moteurs au lieu des 16 habituels pour pouvoir pousser cette construction, la plus grosse jamais bâtie hors de la Terre. Cette capsule, dont le design n'est pas encore totalement défini, devra être mise en orbite par un lanceur lourd comme le Falcon Heavy de SpaceX. Le plan de désorbitation a été précisé en juillet 2024 par l'agence américaine. On laissera d'abord descendre l'ISS naturellement vers la Terre pendant 12 à 18 mois. Elle passera de 400 km d'altitude à environ 280 km. Il faut savoir qu'elle est depuis toujours repoussée par des vaisseaux cargo plusieurs fois par an pour compenser la perte régulière d'altitude. Le dernier équipage ne quittera les lieux que 6 mois avant l'entrée finale dans l'atmosphère. C'est à ce moment-là que le véhicule de SpaceX effectuera une série de poussées pour désorbiter la station. Les morceaux qui ne brûleront pas doivent finir quelque part dans l'océan. Il faudra donc faire preuve de précision. Le retrait d'un monstre comme l'ISS s'inscrit dans une démarche environnementale qui vise à ne pas générer davantage de débris dans l'orbite terrestre. On estime en effet qu'il y a déjà 130 millions de débris spatiaux de plus de 1 mm qui polluent les alentours de notre planète et qui représentent un risque de plus en plus élevé pour les satellites. Les agences spatiales prennent le problème au sérieux. L'Agence spatiale européenne, ESA, a adopté une charte zéro débris en 2023 qui fixe des objectifs pour réduire les risques de collision satellite-débris en orbite. La NASA s'y met aussi et a adopté une stratégie de durabilité spatiale dont elle a dévoilé la première phase mi-2024. Au Canada, nous avons le satellite Saphir et le télescope spatial NEOSAT qui assurent une surveillance, précise l'Agence spatiale canadienne. Le pays s'étant aussi engagé à assurer la sécurité de l'espace près de la Terre. Le destin fatal de l'ISS ne plaît toutefois pas à tout le monde. L'engin symbolise aussi la coopération entre les nations et certaines personnes considèrent sa destruction comme un vaste gâchis. Dans le journal français Le Monde, un duo d'anciens dirigeants de la NASA et de l'ESA a signé en juillet une tribune demandant que cette structure soit placée sur une orbite plus éloignée où elle ne gênerait personne. Pour à peu près la même quantité d'énergie, la capsule fournie par SpaceX pourrait pousser la station dans l'autre sens jusqu'à 800 km d'altitude. La station fantôme pourrait alors rester en orbite pendant des décennies. Ainsi, selon les auteurs, les générations futures pourraient décider de la meilleure façon d'utiliser les 450 tonnes de matériel déjà présentes dans l'espace, soit la demi-kilotonne de ressources spatiales la moins chère à laquelle l'humanité aura accès. C'était « Voici comment la Station spatiale internationale finira sa vie », un texte de Hugo Ruher, paru le 22 octobre 2024 dans Québec Science.